Au XXIe siècle, pas une semaine sans qu'on ne parle d'espionnage chinois. Mais en 1983, c'est avec Bernard Boursicot, pour la première fois en France, qu'une telle affaire était révélée au public. On apprenait que ce diplomate, longtemps en poste à l'ambassade de France à Pékin, avait pendant près de 20 ans livré des documents confidentiels à la Chine de Mao. Mais rien dans cette affaire d'espionnage n'était ordinaire. Et chaque nouvelle révélation allait encore obscurcir le mystère. L'histoire de Bernard Boursicot tenait moins du James Bond que d'un opéra traditionnel chinois ou d'un marivaudage du chevalier Déon, cet espion de Louis XV qui illusionnait dans tous les genres, masculins ou féminins. On découvrait d'abord que si Bernard Boursicot avait trahi son pays, c'était par amour pour une Chinoise, avec laquelle, sur fond de révolution culturelle, il avait eu secrètement un enfant. On apprenait ensuite, Boursicot lui-même l'ignorait, que cette Chinoise était en réalité un Chinois.
France Inter, Stéphanie Duncan, Espion, une histoire vraie.
France Inter, le 7 juillet 1983.
Le journal vous est présenté par Patrice Bertin.
Après l'inculpation samedi dernier du fonctionnaire français Bernard Boursicot, son complice présumé a été arrêté à Paris la nuit dernière. Il s'agit d'un Chinois, un chanteur de l'opéra de Pékin qui s'appelle Shi Pei Pu. Un chanteur ou une chanteuse, on ne sait pas très bien, car malgré son complet veston et son aspect extérieurement viril, Shi Pei Pu affirme être une femme. Jean-Michel Ténard, cette affaire est décidément une chinoiserie.
Une chinoiserie qui est devenue un vrai casse-tête chinois pour la DST, le service de contre-espionnage français. Première hypothèse, Shi Pei Pu est une femme écrivain, une George Sand chinoise. Elle aurait eu en 1966, avec M. Boursicot, un fils. Deuxième hypothèse, Shi Pei Pu n'est pas une femme, mais un homme. Elle, ou plutôt il, serait chanteur à l'Opéra de Pékin et aurait eu, comme on dit, une amitié avec Boursicot. Vous le voyez, un vrai casse-tête chinois. Quoi qu'il en soit, la vérité ne va pas tarder à éclater. Shi Pei Pu couche ce soir à la maison d'arrêt de la santé où les médecins vont se pencher sur son cas et déterminer quel est son sexe.
Toutes ces péripéties aux ressorts si inattendus et romanesques allaient faire rapidement les choux gras des commentateurs et inspirer rien moins qu'un livre, une pièce de théâtre à Broadway et un film à Hollywood. Mais on oubliait l'essentiel. Bernard Boursicot était bel et bien un espion et surtout la victime d'une manipulation machiavélique des services secrets chinois. Paris, le 30 juin 1983. Il est 11h40 lorsqu'avenue Bosquet, près de l'école militaire, une voiture freine brutalement. Trois hommes en surgissent qui se jettent sur un passant.
Vous n'avez pas le droit, je suis diplomate.
Immobilise celui qui tente de résister, lui passe des menottes et l'embarque de force dans le véhicule qui redémarre aussitôt. L'enlèvement n'a duré que quelques secondes. Le diplomate Bernard Boursicot vient d'être arrêté par la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, en charge alors du contre-espionnage en France. Boursicot, terrifié, est conduit au deuxième sous-sol du siège de la DST pour être interrogé. Mais Bernard Boursicot, qui n'a rien d'un espion professionnel, lâche vite le morceau. Oui, il a bien fourni à la Chine plusieurs centaines de documents à la fin des années 60 quand il travaillait à l'ambassade de France à Pékin. Et plus tard, à la fin des années 70, à la représentation française d'Oulan-Bator en Mongolie. Et quand on lui demande qui sont les deux Chinois qui habitent avec lui dans son appartement parisien, Boursicot répond « Ce sont Shi Pei Pu et son fils Shi Doudou ». Et il ajoute « Non sans une certaine appréhension. Shi Pei Pu, en réalité, est une femme, sa femme, et Shi Doudou est leur fils. Au commissaire de la DST qui ne cache pas sa stupéfaction, Bernard Boursicot commence le récit de son incroyable aventure qui avait commencé en 1964.
Pour moi, la vie va commencer en revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi, la vie va commencer.
En 1964, Bernard Boursicot a 20 ans quand il arrive à Paris après une année passée en Algérie comme prof de français. Originaire d'une famille modeste de Vannes, en Bretagne, ce jeune homme, timide, n'a en poche que son BEPC, mais une personnalité déjà originale. Curieux de tout, Boursicot rêve de voyages, de rencontres, se passionne pour le cinéma. À Paris, il dévore les films à la Cinémathèque française et se lie d'amitié avec son directeur, Henri Langlois. Comme il cherche du travail, Bernard tente sa chance au Quai d'Orsay, où il réussit le concours pour devenir contractuel dans la carrière diplomatique. Et la première mission que le jeune homme se voit confier a un parfum inespéré d'aventure, Pékin. Une ambassade toute nouvelle, puisqu'en janvier 1964, la France vient de reconnaître la République populaire de Chine, gouvernée par Mao Tse-tung depuis la révolution de 1949. La France est la première puissance occidentale à franchir le pas. Il faut dire que le général de Gaulle a été alerté par ses services de renseignement que la Chine est sur le point de faire exploser sa première bombe atomique. Plus question donc de négliger cette future grande puissance qui, de son côté, cherche à échapper à l'influence de son grand frère soviétique.
La République française a décidé de placer ses rapports avec la République populaire de Chine sur un plan normal, autrement dit diplomatique.
Un pays lointain, immense, coupé du monde, encore très mystérieux pour les Français.
Il s'agit, a dit le général de Gaulle, de reconnaître le monde tel qu'il est. Et dans ce sens, il n'est pas possible d'oublier à l'autre extrémité du continent européo-asiatique cette Chine, ce très vaste pays géographiquement compact et pourtant sans unité. Un État plus ancien que l'histoire ou un grand peuple, le plus nombreux de la Terre, a bâti une très particulière et très profonde civilisation qui conjugue le goût de la tradition avec le respect de l'étude et de la science. Ce peuple conscient et orgueilleux d'une immuable pérennité, la Chine de toujours. Cette Chine de 700 millions d'êtres qui est aujourd'hui celle qu'a faite au prix de terribles souffrances humaines et d'une implacable contrainte des masses, Mao Tse-tung.
Bernard Boursicot débarque donc au printemps 64 comme simple comptable à la toute nouvelle ambassade de France à Pékin. Une ville fascinante.
Le palais des Fils du Ciel, au cœur de la ville interdite, voisine avec un nouveau Pékin moderne où, si les voitures sont rares, les immeubles ont poussé de toutes parts pour abriter une population chaque jour plus nombreuse. Le pantalon et la veste bleue ont remplacé pour tous, hommes, femmes et enfants, les vêtures multicolores d'autrefois.
Mais lui, qui rêve de découvertes et de rencontres, se trouve vite à l'étroit dans le monde fermé des diplomates. Et les Chinois, de leur côté, se méfient des étrangers. En décembre 1964, cependant, un événement va bouleverser sa vie. Lors d'un cocktail organisé par l'ambassade, un invité chinois attire toute l'attention. Il s'appelle Shi Peipu. Un homme svelte, au visage délicat, élégant dans un costume Mao. Issu d'une famille lettrée, ancien chanteur à l'opéra de Pékin, ce professeur de chinois est cultivé, raffiné et, fait rarissime, parle français. Shipeipu captive son auditoire en évoquant l'art si brillant et subtil de l'opéra chinois, où tous les rôles, même féminins, sont tenus par des hommes. Boursicot est fasciné. À aucun moment, bien sûr, il ne peut imaginer que le charmant Shipeipu est un espion envoyé à l'ambassade de France pour y établir des contacts et recruter des taupes. Dans les années 60, d'ailleurs, la France sous-estime la puissance de frappe de l'espionnage chinois, au point de n'avoir aucun agent du SDEC à l'ambassade de Pékin. En réalité, depuis les années 30, les communistes chinois, sur le modèle soviétique, ont développé des services secrets. Une toile patiemment tissée qui deviendra tentaculaire après la victoire de Mao en 1949. Comme tout État totalitaire, la Chine doit lutter contre ses ennemis de l'intérieur, les opposants réels ou fantasmés, les minorités, les Tibétains, et contre ceux de l'extérieur, innombrables, Taïwan, l'URSS, le Japon, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Le Guangbu, le ministère de la Sécurité publique, qui compte plus de 300 000 agents, a en charge la sécurité intérieure, la police, le contre-espionnage et la gestion du Laogai, l'immense goulag chinois. Des années 30 jusqu'en 1975, avec quelques interruptions, l'espionnage en Chine est incarné par un homme, Kang Sheng. Cultivé, raffiné, cet intime de Mao qui porte de fines lunettes d'écaille et ne s'habille qu'en blanc, est réputé pour sa cruauté. Surnommé le roi de l'enfer, c'est Kang Sheng qui organise les purges au sein du parti et qui orchestrera la terreur pendant la révolution culturelle. Le QG de ses services secrets est situé à 20 mètres sous terre, en plein centre de Pékin. Une véritable ville souterraine, Dixiacheng, construite sur ordre du gouvernement, hantée par la menace d'une attaque nucléaire soviétique. Mais la résidence préférée de Kang Sheng, c'est le Jardin des Bambous, une belle demeure traditionnelle où ce collectionneur d'art accumule les objets anciens qu'il a volés et où, pour son plaisir personnel, il reçoit des jeunes filles et monte des spectacles érotiques avec des acteurs de l'opéra de Pékin. Shipeipu a-t-il dû se plier à ce genre d'humiliation? On n'en sait rien. Mais sans aucun doute, ce sont les services de Kang Sheng qui ont recruté, formé Shipeipu et l'ont jeté dans les bras de Boursicot. Après leur première rencontre à l'ambassade de France, Boursicot et Shipeipu se revoient et se lient d'amitié. Le chanteur fait découvrir aux jeunes Français la culture chinoise, l'entraîne dans le Pékin ignoré des étrangers. Ils deviennent inséparables. Un soir, Shipeipu fait une confidence stupéfiante à Boursicot. Il est en réalité une femme. Sa mère, qui avait déjà deux filles, a décidé à la naissance de sa troisième fille de faire croire à son mari que le nouveau-né était un garçon. Shipeipu, qui depuis toujours donc vit sous l'identité et l'habit d'un homme, fait promettre à Bernard de ne rien révéler. Le jeune Français, bouleversé par cette confession et par ce qu'il croit être l'expression d'une confiance spéciale, déclare à Shipeipu son amour et son désir de la protéger.
Cette révélation a changé ma vision du monde. Et je ne pouvais plus considérer ma vie sans Shipeipu.
Bernard Boursicot, comptable à l'ambassade de France à Pékin, vient de tomber sous l'emprise de Shi Peipu et surtout par son intermédiaire, celle des services secrets chinois. Une emprise qui durera 20 longues années. Ce type de manipulation n'est pas sans évoquer celle menée à la même époque par l'Allemagne de l'Est. Sa police secrète, la Stasi, envoie à l'Ouest de jeunes espions surnommés Roméo pour séduire des secrétaires d'hommes politiques. Des relations qui peuvent durer des années et parfois se conclure par un mariage. Par amour, ces femmes finissent par livrer des renseignements à l'Allemagne communiste. De même, les Chinois ont compris que le meilleur espion n'est pas forcément le diplomate en costume trois pièces, mais peut-être le petit comptable qu'on ne remarque pas, même quand il manipule des documents top secrets.
Descend à l'horizon à Saïgon. Les élégantes s'apprêtent et s'en vont de leur maison. À petits pas, à petits cris, au milieu des jardins fleuris, où rêvent les oiseaux jolis du paradis. Tendrement la joie d'aimer est perdu. Le danseur croit au songe menteur pour un soir de bonheur. On y laisse son cœur. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour. Jusqu'au lever du jour. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour.
France Inter, Stéphanie Duncan, Espion, une histoire vraie.
Pour l'heure, en 1965, le français et la chinoise deviennent amants. L'aspect technique de leur sexualité suscitera au tribunal beaucoup de questions, de gloussements et de fantasmes sur l'érotisme à la chinoise. Aux questions insistantes des magistrats, Boursicot donnera quelques explications floues. Il faisait l'amour toujours dans le noir, Shi Peipu, très pudique, n'enlevait jamais ses vêtements et refusait que son partenaire ne la touche. Des pratiques que Boursicot, lui-même très inexpérimenté, mettait sur le compte de différences culturelles. Peu lui importait, il était amoureux. Tout de même, difficile de ne pas s'étonner de la naïveté de Bernard Boursicot, notamment lorsqu'en décembre 1965, alors qu'il s'apprête à quitter la Chine pour une autre mission, Shi Peipu, en larmes, lui annonce qu'elle est enceinte. Le Français, bouleversé d'apprendre qu'il va être père, promet à sa belle qu'il reviendra. « le voilà harponné. La fabrication d'une taupe, les services secrets chinois le savent bien, est un travail qui demande de l'imagination. Il n'en manque pas, on le voit. De la psychologie, ils ont vite compris que Boursicot était sentimental et fidèle. Et il faut aussi de la patience. Les Chinois, qui savent attendre, seront un jour bien payés en retour. Bernard Boursicot occupe divers postes à l'étranger, mais continue d'écrire à sa bien-aimée. En 1966, Shi Peipu lui apprend la naissance de leur enfant, un garçon appelé Shi Doudou. Bernard, qui a hâte de le voir, obtient 3 ans plus tard enfin de revenir à Pékin. Cette fois comme archiviste et préposé à la valise diplomatique, un poste nettement plus sensible. Mais en 1969, l'ambiance a changé à Pékin. Depuis 3 ans, la Chine vit au rythme de la révolution culturelle, un mouvement de radicalisation politique lancé par Mao pour purger toutes les institutions de leur cadre dit révisionniste et bourgeois. Une terreur qui aura des conséquences tragiques avec la persécution et le meurtre de millions de Chinois. À l'ambassade de France, on n'en mène pas large. Les murs extérieurs ont été couverts de graffitis et de dadzibao qui dénoncent les étrangers et les Français des diables à tête de chien. Une révolution menée par les terrifiants gardes rouges.
Nous sommes les troupes d'assaut de la révolution culturelle, disent-ils. Dans les librairies, un seul auteur, Mao. Shakespeare et Balzac propageaient des idées royalistes et capitalistes. Les meubles et objets de luxe ont été confisqués comme signe de décadence bourgeoise. L'austérité a été élevée au rang de doctrine. Elle seule peut amener à l'égalité. Il n'est de richesse que collective.
Du passé, faisons table rase et le nouveau mot d'ordre. Des personnes âgées sont molestées par des jeunes, des artistes, des enseignants et des intellectuels sont lynchés, poussés au suicide ou envoyés dans des camps de travail.
Parce que vous ne savez pas creuser le sol fertile de la Chine pour en extraire son avenir révolutionnaire. Vous êtes ici parce que vous représentez les 4 vieilles. La vieille pensée, la vieille culture, les vieilles coutumes et les vieilles mœurs. Le travail manuel vous délivrera de ces fléaux et fera de vous des citoyens de l'avenir. Tout en travaillant, vous allez maintenant méditer cette pensée du président Mao.
Lorsque Bernard retrouve enfin Shi Peipu, il demande bien sûr à voir son fils, âgé maintenant de 3 ans. C'est impossible, lui explique-t-elle. Par sécurité, l'enfant a été envoyé à la campagne. En réalité, Boursicot ne l'apprendra que lors de son procès. Son soi-disant fils est un enfant ouïghour qui a été acheté ou enlevé à sa famille par les services secrets chinois pour parfaire leur sordide opération. Un soir, malgré le climat de terreur qui règne, Bernard Boursicot, vêtu du costume bleu et de la casquette de l'ouvrier chinois, se risque à traverser Pékin pour se rendre chez Shi Peipu. Une visite qui peut être dangereuse pour l'ex-artiste de l'opéra. Depuis la révolution culturelle, l'opéra traditionnel est décrété art dégénéré. Désormais, sur scène, finis les seigneurs et les serviteurs. On ne voit plus que de braves ouvriers et de soldats. Shi Peipu doit donc, pour sa survie, donner des gages de bonne conduite révolutionnaire. C'est du moins ce qu'elle raconte à son amant. À peine Bernard est-il arrivé chez elle, qu'une horde de gardes rouges surgit, se jette sur les amants pour les arrêter. Bernard s'exclame qu'il est un ami du peuple chinois, un admirateur de Mao et de la révolution culturelle, et finalement réussit à partir. Pendant plusieurs jours, sans nouvelles de Shi Peipu, Bernard se morfond d'inquiétude. Il est évidemment à des années-lumière d'imaginer que l'effraction a été mise en scène par les services secrets chinois avec la complicité de Shi Peipu. Quand il se revoit enfin, Shi Peipu, qui maîtrise à merveille l'art de mentir et de jouer la victime, explique à Bernard que s'il veut l'aider, il faut qu'il rencontre deux amis à elle, deux Chinois haut placés. Bernard accepte. Et c'est ainsi que Shi Peipu va l'entraîner dans l'espionnage au profit de la Chine. Les deux hommes, Kang et Zhao, qui travaillent pour les services secrets, vont devenir ses officiers traitants. Et c'est à eux qu'il remettra des documents confidentiels de l'ambassade. Par semaine, une chemise sous le bras, Boursicot enfourche son vélo, apporte les documents à Kang et Zhao, qui les copie, puis il les rapporte dardard à l'ambassade. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce jeune homme distrait et rêveur ne sera jamais suspecté. Bernard Boursicot est désormais un espion pour la Chine. Mais quelles sont ses motivations ? Affective d'abord, on l'a compris. C'est le seul moyen pour lui de voir Shi Peipu et de la sauver. Et un jour, espère-t-il, de voir son fils. Mais ses motivations sont aussi politiques. Comme beaucoup de jeunes Français de l'époque, il n'est pas insensible aux idées maoïstes. Il est donc fier de rendre service au grand timonier et à son peuple. Les renseignements que Boursicot livre aux Chinois concernent essentiellement la participation américaine à la guerre du Vietnam, où la Chine a engagé 300 000 soldats aux côtés du Vietnam du Nord. Ils concernent également l'Union soviétique. L'ancien allié de la Chine est devenu son pire ennemi, avec un conflit frontalier qui les amènera à plusieurs reprises au bord d'une guerre nucléaire.
8 heures, voici Interactualité que dirige André Sabas.
Après les nouveaux incidents frontaliers sur l'Oussouri, les dirigeants soviétiques multiplient les avertissements à Pékin.
La Pravda écrit ce matin, toute tentative de violation de nos frontières se heurtera à une riposte foudroyante. Ce sont les mêmes termes que ceux de la protestation soviétique adressée samedi aux Chinois. Bien entendu, le président Mao Tse-tung accuse les soviétiques d'avoir déclenché ces nouveaux incidents. On l'a entendu dire à Radio Pékin que les soviétiques jouaient avec le feu et que cela allait leur coûter très cher.
Boursicot fournit donc aux Chinois des documents d'une haute valeur stratégique. Mais au nom de l'honneur, dit-il, il refuse toute rémunération. Et il se targue de ne donner aucun document qui compromettrait la France. Un argument qui n'aura aucune valeur lors de son procès, car tout document qui sort de l'ambassade de France est confidentiel. En 1972, Boursicot quitte à nouveau la Chine. Il y revient tout de même l'année suivante pour quelques semaines de vacances avec sa belle. Toujours sous la haute surveillance de Kang et de Zhao, qui, en guise de récompense, autorise pour la première fois Bernard à voir le petit Chidoudou. Enfin, ce fils qui, paraît-il, lui ressemble. Dans les années 70, la situation de la Chine évolue. En 1971, elle entre au Conseil de sécurité de l'ONU. La guerre du Vietnam se termine en 1975 par la victoire du camp communiste. Mais l'année suivante, Mao Tse-tung, qu'on croyait immortel, meurt après 28 ans de règne. Le grand retour de Bernard Boursicot en Asie, c'est en 1977, quand il est nommé à la représentation française d'Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Située entre la Chine et l'URSS, cet État sous influence soviétique est une zone stratégique. Et Boursicot a pris du galon. Il cumule désormais les fonctions d'archiviste et de secrétaire de l'ambassadeur. Une excellente nouvelle pour les services secrets à Pékin, qui décident de réactiver leur agent français.
Des horizons immenses, des steppes immenses, un climat sévère, une vie rude. Au cœur de l'Asie, pris entre l'URSS et la Chine, un territoire de 1 500 000 km², presque trois fois la France, mais à peine plus d'un million d'habitants. Telle est la Mongolie, une des toutes premières républiques populaires et la plus mal connue. Mais la Mongolie d'aujourd'hui est bien loin de songer aux conquêtes. Enjeu inavoué du conflit sino-soviétique, elle a choisi en 1964 l'URSS. Et en 1966, M. Brejnev et le premier secrétaire du PC mongol, M. Tsedenbal, signaient un nouvel accord de coopération et d'assistance destiné à accélérer l'aide soviétique.
Boursico, qui a en charge la valise diplomatique, prend le train toutes les 3 semaines pour la Chine, où il retrouve sa petite famille et où, bien sûr, il transmet tous les renseignements qu'il peut trouver à ses officiers traitants. Des officiers traitants de plus en plus exigeants. Pour les satisfaire, Boursico en vient à recopier à la machine des articles du Figaro ou du Monde qui traitent de la Chine ou de l'URSS. Ni vu ni connu, il tamponne le tout d'un magnifique secret défense et le tour est joué. En mars 1981, Bernard Boursico quitte la Mongolie et met fin à son espionnage pour les Chinois. Mais l'année suivante, alors que Bernard est rentré à Paris, Shi Peipu arrive en France avec son pseudo-fils. Officiellement pour une série de conférences sur l'opéra chinois, il est reçu comme une star à l'aéroport. En réalité, sans doute missionné par les services secrets chinois pour appâter et réactiver leur agent français. À leur arrivée, Shi Peipu et Shi Doudou viennent habiter chez Bernard. Mais Boursico et Shi Peipu l'ignorent. La DST, mise en alerte, souhaite les interroger. Le 30 juin 1983, Bernard Boursico est arrêté en pleine rue à Paris, conduit au sous-sol de la DST, et au bout de 2 minutes, l'espion se met à table. Une semaine plus tard, c'est au tour de Shi Peipu d'être arrêté et interrogé. Mais comment nos deux espions ont-ils été découverts ? Peut-être grâce à de simples filatures. Shi Peipu aurait été repéré dans ses allées et venues entre l'ambassade de Chine et le domicile du diplomate français. Peut-être la DST avait déjà depuis longtemps des soupçons sur les deux hommes et aurait de ce fait facilité la venue de Shi Peipu en France pour pouvoir l'arrêter. Dernière hypothèse et non la moindre. La DST aurait été alertée par la CIA. Quelques semaines plus tôt, un diplomate chinois a fait défection et s'est réfugié à Hong Kong, à cette époque encore territoire britannique. Le Chinois, interrogé par les services secrets anglais et américains, les aurait informés de l'existence d'une taupe française, un diplomate ayant été en poste à Pékin. Une semaine après son arrestation, Bernard Boursico est inculpé d'intelligence avec des agents d'une puissance étrangère pour avoir livré 500 documents confidentiels à la Chine. Et celle dont il assure qu'elle est sa femme est inculpée de complicité pour le même délit. À la demande du juge, Shi Peipu est examinée par des médecins qui confirment qu'elle est bien de sexe masculin. L'information sensationnelle est rendue publique. Les journaux et les radios rivalisent alors de jeux de mots pour qualifier cette affaire croustillante qui mêle espionnage, opéra chinois et confusion sexuelle. La matahari chinoise était un homme. La belle danseuse était en fait un vilain monsieur.
Une George Sand.
Quant à Bernard Boursico, au fond de sa cellule, c'est par la radio qu'il apprend la vérité sur celle qu'il aimait.
Shi Peipu n'est pas une femme, mais un homme. Elle, ou plutôt il, serait chanteur à l'opéra de Pékin.
Désespéré, il tentera de se trancher la gorge. Au milieu de ses larmes, il apprendra que l'histoire de son enfant était également un mensonge. Le 6 mai 1986, quand s'ouvre à Paris le procès des deux espions réunis dans le box des accusés, les juges ne sont guère plus élégants.
Mais par quelle curieuse acrobatie Shi Peipu a-t-il pu faire croire à Boursico qu'il était de sexe féminin ? Et au lit, ça se passait comment ?
Durant le procès, curieusement, on s'intéresse davantage à la personnalité et à la sexualité des accusés qu'au fond de l'affaire, c'est-à-dire l'espionnage. mais le verdict surprend par sa sévérité.
Les 7 magistrats de la cour d'assises spéciale n'ont pas cru à l'histoire d'amour. 6 ans de réclusion criminelle, ils n'ont jugé que l'espionnage, même si l'épreuve, plutôt la démonstration, avancée par la DST apparaissait mince, même s'il manquait quelqu'un, n'importe qui du Quai d'Orsay, pour venir dire si les fuites étaient vraiment graves. Les 2 vieux amants ne se rencontreront peut-être plus. Personne ne saura vraiment s'ils étaient sincères, personne ne saura si l'histoire qu'ils ont racontée était vraie. Après 20 ans d'étranges, il ne leur restera qu'un seul lien, ce garçon de 18 ans qui les appelle chacun mon père et qui ira les voir en prison.
Mais en prison, Shipei Pu, lui, ne restera pas longtemps. Il n'avait d'ailleurs aucun doute là-dessus. L'année suivante, en effet, sous la pression de la Chine, il est gracié par le président de la République, François Mitterrand. Pas question de compromettre les relations franco-chinoises, notamment économiques. Shipei Pu, qui apprécie sans doute la vie en démocratie, ne retournera jamais en Chine. Il donne des conférences et des cours d'art vocal chinois. En 1988, il est invité sur France Culture.
Monsieur Shipei Pu, la chanson populaire chinoise, ancienne surtout, est une chanson qui est pour ainsi dire inconnue en France. C'est pourquoi j'ai voulu vous demander de nous en dire quelques mots.
Presque tous sont les chansons assez anciennes parce que c'est la chanson traditionnelle des provinces.
Shipei Pu meurt en 2009 et est enterré au Père Lachaise. Shi Doudou est resté en France, où il a fondé une famille. Bernard Boursicot vit aujourd'hui en Bretagne, dans une maison de retraite, où son humour et ses récits de voyage font la joie des autres résidents. À sa sortie de prison, il a connu la célébrité quand une journaliste américaine lui a consacré une biographie, qui inspira ensuite une pièce de théâtre à Broadway, puis un film de David Cronenberg, M. Butterfly, en 1993, avec dans son rôle l'acteur Jeremy Irons. À l'occasion de la sortie du film, Bernard Boursicot était invité à l'émission Bouillon de culture, où un Bernard Pivot médusé l'interroge sur la manipulation dont il a été victime par Shipei Pu.
Et vous n'avez pas été manipulé deux fois par le fait, ou je dirais grugé deux fois, parce qu'elle vous a obligé à espionner au profit de la Chine, vous avez été condamnés tous les deux, et elle vous a grugé dans votre sexualité même.
Ah, ça c'est encore plus douloureux.
Oui, c'est encore plus douloureux, c'est évident.
Oui, surtout, s'apercevoir qu'on a fait tout ça pour rien.
Ouais. Et vous l'avez aimé?
Bien sûr, sinon, comment aurais-je fait?
Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.